Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je tente des variations parce qu'on s'ennuie sinon à écouter les podcasts au fur et à mesure. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aborder un truc qui m'intéresse vachement parce que j'ai eu l'occasion de discuter hier longuement, comme souvent d'ailleurs je discute longuement, avec une personne qui souhaite s'inscrire dans une de nos formations. Qui avait besoin d'informations, notamment sur le métier. C'est-à-dire que je tiens énormément à ce que les personnes qui font ma formation ou qui demandent à la faire, parce qu'il y a cette étape où on va discuter ensemble, m'expliquent leurs attentes de leur vie dans ce métier pour que moi je puisse leur opposer éventuellement ou leur expliquer la réalité de ce métier qui plaît à beaucoup de gens et qui déplaît à d'autres parce qu'ils se sentent finalement pas prêts à ça. Donc, hier, le point de départ de la conversation dont je veux parler aujourd'hui, c'est le fait que cette personne me disait qu'elle souhaitait une certaine sécurité financière parce qu'elle était sensible à ça, comme beaucoup de gens qui ont connu des hauts, des bas, et qui ne veulent plus que l'argent soit une question dans leur vie, dans le sens sécurité du terme. Et elle me demandait si la rédaction web, c'était un métier capable de faire ça. Et cette question-là m'a interpellé sur un point, c'est qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Et c'est un peu ça, mon sujet. Et mon sujet, vous allez voir, se déploie un petit peu encore autrement, mais je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'est le métier de rédacteur web dans son essence. Et pour beaucoup d'entre vous, sans doute, ben vous faites pas le métier dont on parle. Et vous allez comprendre pourquoi. Le métier de rédacteur web, selon moi, n'existe pas. Oui. Non, je sais, c'est une étiquette, c'est tout, c'est une étiquette qu'on a posée sur quelque chose d'autre. Et c'est cette autre chose qui est notre métier. Le métier que nous faisons, c'est entrepreneur. Je le dis souvent, je forme des capitaines. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils pensent que ça veut dire que, oui, bon, ben, on saura écrire tous les types de contrats, on répondra à tous les briefings. Pas du tout, pas du tout. Ça en fait partie, bien sûr, c'est un élément constitutif, mais pas du tout le cœur de ce que j'enseigne. Quand je donne mes cours, je travaille essentiellement sur le pourquoi, sur le sens et sur la culture. Par exemple, pourquoi il existe des moteurs de recherche? Quel est leur rôle dans notre civilisation? Ou alors, pourquoi... La page LinkedIn, je vous donne des exemples débiles, mais pourquoi la page LinkedIn de profil est conçue de cette manière et pas d'une autre? À quoi elle fait référence quand elle est affichée? Est-ce que c'est juste un CV, comme tout le monde le pense, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Quel est finalement le business model de LinkedIn? Et au-delà de ça, quel est le business model des gens qui utilisent LinkedIn? Est-ce que LinkedIn aurait conçu un système de tunnel de vente qui permet à tous les professionnels de vendre leurs services avec un chemin élaboré de plusieurs étapes, passant d'un réservoir commun à des profils particuliers de tunnels de vente spécifiques, de pages de vente spécifiques. Ce qui m'intéresse, c'est pas de vous dire sur la page LinkedIn, je continue avec cet exemple parce qu'il est confortable et qui matche plutôt bien avec ce que je veux raconter, c'est pas de vous dire mettez rédacteur web augmenté ou mettez rédacteur web communicant ou mettez rédacteur web SEO dans la partie au-dessus, blablabla, et puis mettez la photo de profil trois quarts. Non, je me fous complètement de ce que vous allez faire de cette page LinkedIn, ça ne m'intéresse pas parce que c'est totalement spécifique à vous. Je me souviens d'une rédactrice web sur LinkedIn qui avait fait une page qui était fofolle et délirante et qui était très drôle, où la personne disait « Oui, avec moi, ça pétille, avec moi, ça je sais plus quoi, c'est la fête. » Elle avait fait des jeux de mots dans sa banderole, elle avait fait une photo d'elle où elle éclatait de rire. Et je n'aurais jamais conseillé à quelqu'un de faire ça. Néanmoins, elle a raison, parce qu'il y a un public pour ça. qu'elle va chercher. Et dans sa stratégie, elle fait des posts qui sont rigolos, qui sont un peu piquants, pinçants, un peu pince-sans-rire, voilà, ce genre de choses. Et puis les gens se disent « Ah, elle est sympathique, allons voir qui c'est », et ils arrivent sur sa page qui reflète complètement cette personnalité-là. Il y a une énorme cohérence. On clique sur le bouton « Message »,« Eh, salut », ou alors on se connecte à elle, « Eh, salut, est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble ?» etc. Donc, il y a un tunnel de vente. LinkedIn, une fois qu'on commence à comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche comme ça, ben à ce moment-là, tout devient simple. Je vais vous faire la démonstration sur LinkedIn juste pour aller au bout de ce raisonnement. Vous postez des messages. Déjà, vous choisissez votre public. Première étape. C'est-à-dire que vous vous connectez aux gens qui vous intéressent. C'est royal. Imaginez comme c'est pratique. Vous avez, je ne sais plus si c'est par mois ou par semaine, une centaine de personnes à qui vous pouvez vous connecter. Ratez pas ces rendez-vous. Chaque fois que c'est possible, faites-le. Et vous avancez comme ça au fur et à mesure. Puis, vous postez des choses sur LinkedIn qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à une valeur commune que vous avez avec le public, que vous ciblez. Par exemple, vous travaillez beaucoup sur les droits des femmes, et ben, vous postez régulièrement des posts sur le sujet, de manière à avoir des gens qui réagissent. Ces gens, c'est les gens que vous avez sélectionnés. Donc, vous commencez à vous rapprocher de vos prospects. Vous leur devenez familier. C'est très pratique. C'est exceptionnel. Il n'y a aucun endroit où on peut aussi bien targeter les choses, les cibler et faire vraiment venir à nous les gens qui nous intéressent, se connecter à eux, échanger avec eux régulièrement. Quand une personne fait quelque chose qui vous intéresse sur LinkedIn, un réflexe que vous pouvez avoir, c'est de cliquer sur son nom. C'est immédiat, c'est instantané et ça permet d'en savoir plus sur la personne. Donc cette personne, ben, son poste vous envoie directement, que ce soit parce qu'elle a fait un commentaire intéressant ou que ce soit parce qu'elle a fait un post intéressant ou une vidéo intéressante éventuellement, vous arrivez sur son profil. Sur son profil, vous trouvez quoi ? Vous trouvez des liens vers des sites internet, vous trouvez des résumés de ce qu'elle a fait, puis vous trouvez un peu plus bas, en bas de page, vous trouvez ses formations, vous trouvez ses accomplissements, vous trouvez les récompenses qu'elle a eues, vous trouvez même des témoignages d'autres clients qui disent qu'elle est fabuleuse, ça s'appelle une page de vente. Les éléments de réassurance sont là, les éléments d'engagement sont là. Vous avez un espace information qui vous permet de donner un extrait de vos valeurs, de ce en quoi vous croyez vraiment, de ce qui est important pour vous. Et puis, la personne, à ce moment-là, une fois qu'elle est convaincue de tout ça, soit elle devient amie avec vous et vous pouvez la contacter en MP, elle sait qui vous êtes, soit elle va vous contacter elle directement parce qu'elle a un besoin à ce moment-là. On fait du lead nurturing directement dessus, c'est-à-dire on va nourrir le lien avec cette personne. Et c'est ainsi que LinkedIn a créé un réseau social incroyable qui est en fait une énorme plateforme de vente où il n'y a que des tunnels de conversion. D'où le fait que tout le monde vende des trucs et que tout le monde se vante de plein de choses. Leur but, c'est que les gens cliquent sur le nom pour aller sur le profil, pour avoir la page de vente. Donc, une fois qu'on a compris ça, j'ai pas besoin de vous dire comment vous devez faire votre poste. Vous êtes capitaine. Vous savez interpréter les choses, vous savez étudier la question. Vous vous demandez s'il faut utiliser le système de newsletter de LinkedIn. Quelle est votre stratégie ? Quelle est la raison pour laquelle vous voulez faire ça ? Quel est le type de relation que vous voulez avec votre client que vous pensez plus bénéfique pour vous par rapport à ce que vous allez investir comme énergie ? C'est ces questions-là qui vont se poser à vous. Et pour moi, j'ai fini mon boulot. Quand vous avez posé ces questions-là, j'ai fini mon boulot. D'accord ? Je pourrais vous dire que ça marche pareil avec la conception d'un site web, avec la manière dont on écrit un briefing, avec les mails de prospection. Et c'est exactement ça. Je veux vous donner les pourquoi, parce que ce sont les clés les plus essentielles et les plus précieuses qui vous permettent de prendre des décisions, au quotidien. Et donc de faire carrière. Carrière de rédacteur web, oui, pour l'instant, c'est ce que vous faites. Mais si vous restez cloisonné en tant que rédacteur web, moi je me souviens d'avoir vu des articles apparaître. Je salue d'ailleurs parce qu'il y a une ou deux personnes qui sont sorties dans la presse et qui m'ont dit écoutez mon podcast quand j'en ai discuté avec elles, qui ont arrêté le métier de rédacteur web à l'arrivée de GPT-4 en disant ça y est, game over, notre métier est terminé. Et je vous avoue que j'ai pensé aussi. Mais moi, je ne suis pas rédacteur web. Alors, vous pourriez me dire, oui, bah, t'es formateur. Non, je me sens rédacteur web. Ça a été mon métier principal. J'ai fait ça depuis plus d'une décennie. Voilà, je suis bien là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est vrai que mon rôle est avant tout de former les gens. Mais je ne suis pas rédacteur web, je suis entrepreneur. Je ne suis pas formateur, je suis entrepreneur. À n'importe quel moment, je peux arrêter mon centre de formation pour partir sur quelque chose qui me semble beaucoup plus porteur. De même, je choisis les différents types de formations que je fais, les gens pour qui je travaille, les services que je donne, les services que je vends. Je suis totalement libre de ces choses-là. Est-ce qu'un rédacteur web, selon vous, d'ailleurs j'ai un bon exemple à vous donner, est-ce qu'un rédacteur web, selon vous, doit se contenter d'écrire des textes pour faire son argent ? Il y a une rédactrice web qui m'a contacté il y a quelques temps, quelques jours à peine, pour me demander l'autorisation dans un de nos groupes, le groupe réseau rédacteur web sur Facebook, de prospecter en MP des gens, des rédacteurs de notre groupe, qui sont des rédacteurs, hein, tout court, c'est pas des gens qui sont liés forcément à nous, c'est un service qu'on donne, le réseau rédacteur France, et pour pouvoir leur proposer un service de coaching, j'ai vu ces tarifs, je crois que c'est aux alentours de 70€ de l'heure, pour expliquer tout le métier et accompagner dans le développement du métier, tout ça, de rédacteur web, parce qu'elle a une bonne expertise de ça. Et elle me dit, je pense qu'il y a une demande. On en discute ensemble. Elle me dit, j'ai eu déjà une ou deux personnes qui m'ont demandé de faire ça. Je pense qu'il y a une vraie demande, parce que les rédacteurs web peuvent s'adresser à qui pour avoir de l'information de réellement bonne qualité? C'est une bonne question. Je lui ai pas accordé cet accès, parce que j'étais inquiet que les gens confondent son service et le mien, puisque le groupe est estampillé Cercle des rédacteurs et qu'elle n'est pas du tout en lien avec nous. Donc je n'ai pas soutenu cette démarche-là, mais je lui ai donné quelques recommandations pour avoir quelque chose d'équivalent ailleurs qui fonctionne très bien. Néanmoins, ça m'a interpellé cette question-là. Voilà une rédactrice qui développe un nouveau service à côté. C'est une excellente démarche. On est des entrepreneurs. Quand l'intelligence artificielle est arrivée, il y a des rédacteurs qui ont décidé de s'appeler rédacteur AI. Hey, je suis rédacteur AI. Maintenant, je vais proposer de la génération de contenu. Mais ça, c'est pas avec ChatGPT. Hein. C'était déjà avant avec Jasper, ou WriteSonic, qui faisait déjà un boulot. Ça va. C'était GPT-3. C'était un peu en dessous de GPT-3. Mais ça va. C'était pas mal. Et donc, en fait, les rédacteurs AI avaient commencé déjà à travailler là-dessus. Et c'était jeté tout de suite dessus. Entrepreneur, ça me va. D'accord ? Y a des rédacteurs qui vont monétiser certaines choses qu'ils font, notamment des formations. J'ai vu pas mal de fois. Il y a une jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle. Quand on tape rédacteur web formation, elle est sur la première page, donc elle s'en sort très bien. Mieux que moi, je crois. C'est un site internet qui parle de ses services de rédaction. Et puis qu'il y a un onglet formation dans lequel elle propose des sessions d'accompagnement, de formation et de choses comme ça pour des élèves ou des e-books ou des choses comme ça. Parce qu'elle a fait plein de choses. Elle a publié des écrits. Je connais un autre rédacteur, il publie régulièrement des choses qui ne touchent pas forcément à la rédaction web, mais qui touchent au métier du web en général sur Amazon et qui en a fait une ressource secondaire. Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas, ça dépend de combien de personnes cherchent un livre sur ce sujet-là. C'est toujours, hein, vous prenez 100% de la population et vous vous dites, ok, combien de personnes se posent des questions sur ce sujet ? J'enlève tous les autres. Combien de personnes sont prêtes à investir de l'argent pour en savoir plus ? J'enlève encore tous les autres. Combien de personnes sont prêtes, connaissent Amazon ? Encore. Connaissent Amazon section livres de ce profil-là ? Choisissent parmi tous ces livres celui-là ? Voilà, et donc à la fin, vous avez l'échantillon sur lequel le client travaille vraiment, enfin le rédacteur travaille vraiment, et souvent c'est quelques centaines de personnes. Mais bon, ça peut être suffisant, quelques centaines de ventes, n'est-ce pas ? Donc bon, on est au cœur du marketing quand on est rédacteur web, ou qu'on évolue dans le domaine de la rédaction web. On est toujours sur cette question de fabriquer des produits ou des services qui correspondent à des gens. Dans le dernier podcast, je vous avais un peu parlé de la prospection en vous disant que le secret de la prospection, qui fait que les gens détestent la prospection, c'est le fait que les gens essayent de se vendre eux, du type entretien d'embauche. Bonjour, je suis un rédacteur ou une rédactrice web, j'écris correctement, je suis très efficace, je suis pointu, je suis précis, je ne fais pas de faute, je respecte très bien les briefings, je suis sage, je dis toujours bonjour et au revoir, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais personne ne veut ça. Je veux dire, regardez Google Trends, faites des recherches sur l'expression rédacteur web, rédaction web, et vous verrez qu'il y a moins de 10 000 recherches par mois sur Google, sur ce mot-là, c'est quand même vraiment pas beaucoup sur l'échelle mondiale et le nombre de requêtes qui sont faites. C'est pas beaucoup. Mais par contre, quand on rentre dans les promesses du rédacteur, je vais augmenter votre trafic, je vais développer votre identité, je vais améliorer votre conversion, alors là, les scores, ils explosent, parce que là, il y a beaucoup de recherches. Les gens ne savent pas qu'ils ont besoin d'un rédacteur web. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens ne connaissent même pas notre métier. On est des fantômes, alors qu'on a écrit le web. Mais on est des fantômes. Mais par contre, nos promesses, ils les connaissent, parce qu'ils courent après. On a une valeur immense là-dessus. Donc, dans votre prospection, à la place de dire « Je suis rédacteur, rédactrice web, je suis disponible, open to work, pour pouvoir travailler avec vous sur les sujets qui sont les vôtres et allez-y, vous, dites-moi ce que je dois faire », ben, arriver avec des propositions claires, précises et chiffrées pour que la personne puisse se projeter dedans en disant « Votre site internet est vraiment très bien, il a beaucoup de qualité, c'est vraiment un truc classique que je vous donne. Hein. J'ai regardé le blog, il y a des très bons articles, mais oh, ça fait 2 ans que vous n'avez rien publié. Ben, c'est normal, difficile d'avoir un rythme, difficile d'avoir ce genre de choses, mais pour le coup, ben, peut-être que la fréquentation a baissé, et j'imagine que votre site internet participe à votre chiffre d'affaires. C'est dans le cas où c'est le cas. Hein. Parce que si c'est le boucher du coin qui a fait son site internet, venez pas l'embêter, ça lui sert à que dalle. Mais bon, donc, là, il y aurait un business model. Le client, enfin, le prospect potentiel, a priori, fait rien de spécial de son site. Ok, tant pis. Bon, ben là, on arrive et on dit... J'ai une promesse à vous faire. Publication régulière, publication de qualité, renforcement du SEO, correction de votre site internet sur les optimisations SEO classiques que je peux faire à mon niveau. Hein, accélérer un peu le site, alléger les pages, vérifier que le WordPress est programmé correctement, etc. Je peux faire plein de petites choses, des petits plugins rajoutés à droite, à gauche, des petits machins, juste histoire de gratter un peu de points. C'est pas l'équivalent d'un professionnel, mais c'est quand même... plutôt une avancée par rapport à avant. Et publication, donc, amélioration de la fréquentation, augmentation du chiffre d'affaires. Voilà ce que je peux faire pour vous. Je vous propose une mise à niveau de votre site pour 300, 400, 500 euros, plus mise à niveau technique et analyse des contenus, etc., plus après, ben, le fait de réalimenter. Et là, ça vous coûtera 150, 200 euros par mois pour avoir tant et tant de textes. Et après, ça roule. Voilà, vous budgétez ça, tous les mois, vous vous occupez de rien, je mets le truc en ligne, je fais tout ce qu'il faut, et au bout de 3-4 mois, vous verrez un résultat apparaître. Et vous allez avoir de plus en plus de choses. Ça, c'est une stratégie. Et ça, là, on rentre déjà du côté de l'entrepreneur. Il sait que c'est pas lui qui se vend, c'est la promesse. Il vient avec une offre, c'est les offres qu'on accepte. C'est important de comprendre que vous ne choisissez pas votre coiffeur parce qu'il est bien coiffé et qu'il est joli, ou qu'il est sympa, ou qu'il a de la tchatche. Vous avez regardé la plupart du temps comment est coiffé les autres, et si ce n'est pas raté, vous y êtes allé. C'est-à-dire que les promesses, c'est ça ce qui fait tourner tout le business. Le business repose sur des promesses. Donc, imaginez maintenant le rédacteur un tout petit peu plus entrepreneur, d'accord ? Un cran au-dessus. Il dit, alors moi je vous propose qu'on mette une 20aine d'articles immédiatement, des trucs générés par intelligence artificielle, de bonnes factures, bien faits, avec une technique d'obscurcissement dessus, comme ça, le texte, ils sont hyper bien repérés et tout. Et après, je rentre dans des articles branding plus solides qui vont, la première couche étant spécial SEO, la deuxième étant branding, qualité, etc. Et je finis par ces textes-là, de manière à pouvoir augmenter la fréquentation, et puis on va faire du linking à l'intérieur, essayer de faire des ponts entre les articles, etc., etc. Le client est ravi. Surtout que les textes générés par l'IA sont moins chers. Censément moins chers. vous êtes censé gagner du temps. Mais pas beaucoup de temps, hein. Faut pas croire que vous collez un truc et puis le machin qui sort, il est fait. Non, non, il y a quand même encore une bonne heure de boulot dessus, mais ça peut aller vite, quoi. Ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps. Donc, ça, c'est une stratégie. Puis après, il y a aussi, je vais sous-traiter une partie de votre travail à des gens qui ont plus de temps. Parce que, par exemple, les rédacteurs malgaches qui suivent la formation ICICA vont pas tarder à commencer une formation spéciale Prompt Engineer, qui sont là pour suppléer notamment et assister les rédacteurs web français. C'est un peu ma vision des choses, mais c'est pas exclusif. Mais c'est les rédacteurs web français qui sauront le mieux la valeur de ce qui est fait et qui vont apporter à ces rédacteurs-là des articles qui sont bien faits, bien travaillés et au tarif horaire de Madagascar, confortable pour Madagascar. Ce qui fait que le rédacteur français va vraiment pouvoir avoir un boost d'accélérateur et va pouvoir commander 20-30 textes en plus à vendre à son client qui va être tout bénef. D'accord ? Et je parle vraiment de tout le monde qui est bien payé dans l'histoire. Hein. C'est important pour moi, ça. Je veux dire, on a ces différences de niveau de vie qui existent. Ben, l'entrepreneur sait en prendre acte et tirer les conclusions qui s'imposent à lui et qui sont idéales, c'est-à-dire trouver les nouveaux chemins. Pardon, je m'égare un petit peu. Trouver les nouveaux chemins qui permettent d'exploiter non pas des humains, mais des systèmes. Quand dans un pays, quelqu'un est bien payé en étant payé 3 fois moins qu'en France, vous pouvez faire quelqu'un d'heureux à distance tout en ayant un atout énorme financier chez vous. D'accord ? Moi, je me bats le plus possible contre ceux qui affament les personnes à Madagascar ou qui les volent ou qui les escroquent alors que c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est déjà pas cher. Et quand on les paye pas cher pour nous, on a des gens qui vivent très bien chez eux. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Et gagnons ensemble. J'ai déjà dit souvent aux rédacteurs web de Madagascar que leurs meilleurs clients, c'est sans aucun doute des rédacteurs web en France, qui ont besoin de plus de puissance pour certaines choses, qui sont bloquées dans leur progression. Encore une fois, le rédacteur web français qui est entrepreneur peut se dire, si j'avais une équipe qui m'accompagnait à Madagascar, au Bénin, au Togo, au Congo, en Côte d'Ivoire, etc., ce que vous voulez, et qui me permettait d'avoir des contenus de qualité selon mes critères, je pourrais aller démarcher des contrats bien plus gros. Je pourrais aller chercher des choses bien plus fortes. Si moi, je m'occupais de la conception du site et que j'avais 3 personnes qui s'occupaient des contenus et qui travaillaient super bien, et qui me coûtait 3 fois moins cher, je pourrais bien gagner ma vie, et eux aussi. D'accord ? J'essaye de vous montrer ça. C'est le principe du tarif équitable. Hein. Voilà. Équitable signifie que tout le monde a la sensation d'être bien payé. Et c'est ça ce qu'on veut. Voilà, si vous avez... Enfin bref, peu importe. Mais ce que je veux vous signifier par là, c'est que le rédacteur peut aller de ce côté-là. Le rédacteur, des fois, il fait un pas du côté du community management aussi. Maintenant, on parle de social media manager. J'ai pas bien compris, je sais pas exactement à quel point c'est du community management. Le community management, je le rappelle, c'est un métier où quelqu'un fait fructifier une relation quotidienne avec des gens. C'est pas le fait qu'il fasse des posts, ça on s'en fout. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu ça, et franchement, ça lourde tout le monde. On a l'impression d'avoir des journaux qui vous publient leurs derniers articles, etc. C'est un peu... voilà. Mais... ou qui essayent de vous faire parler avec des call to action vraiment nazes, du type, oui, et oui, le coca, c'est devenu moins cher. Et vous aussi, vous aimez payer vos boissons moins chères. Oui, trop, exactement. Bon, bref. Donc, le community manager est quelqu'un qui a la vraie compétence de dialoguer en tant que marque, parce que c'est une marque qui parle, avec son public. C'est là où on a les groupes les plus dynamiques, les choses qui marchent le mieux. C'est des magiciens, parce qu'après, ils ont une image hyper positive. Ils font des trucs qui font marrer tout le monde. Ils ont des événements qui arrivent dans leur groupe. Des fois, c'est le public qui le fait. Des fois, c'est eux qui l'organisent. Et c'est des choses qui sont géniales, etc., etc. Quand une marque va bien et est très proche de son public, c'est quelque chose où elle a un chiffre d'affaires qui s'assure automatiquement, parce que ils sont soutenus. Vous savez, il y a des gens, ils ont déjà dit « Oui, j'ai déjà acheté ce produit de cette marque, mais bon, il était moins bien, mais ah, je les soutiens, quoi, c'est normal. » Voilà, c'est les petits jeunes qui lancent des cookies avec des petites formules dessus et je sais pas quoi, ben, on les achète, même si la fournée là, elle est un peu naze. C'est pas grave, les gars, allez-y, continuez. Parce qu'on est des humains, on a envie de croire en vous, on a envie de vous soutenir, on a envie... Et ça, ça se fait via le community manager. C'est aussi le community manager qui arrive à faire comprendre aux gens les véritables problématiques de son produit et les véritables problématiques de la vie des gens qui sont là, qui va commencer à leur apporter des choses. Donc là, on a l'exemple qui est... vous avez sans doute déjà vu des boissons... qui vendent un peu sur le principe de Tupperware. J'ai un copain qui s'était retrouvé là-dedans. J'ai pas aimé parce qu'il m'a embarqué. Il a invité tous ses amis en disant « Ouais, c'est ma nouvelle activité, venez. » Et puis en fait, il claquait des posts qui étaient des copier-coller qu'on lui avait donné, qui étaient que des trucs d'engagement. « Oui, vous aussi, vous vous sentez gros. C'est normal, vous êtes dégueulasse. Mais vous pouvez devenir meilleur. Regardez le témoignage de Paul. Salut, moi c'est Paul. Avant, j'étais dégueulasse. » Etc. Et il y avait ça. Et les gens réagissaient plein en disant « Ouais, mais c'est vrai. Moi aussi, je veux être comme Paul. J'ai connu ce truc-là. » Etc. Donc, il y avait une espèce de groupe hyper animé qui apparaissait. Or, c'était que des posts pré-travaillés que les gens copiaient-collaient, tout simplement. Ils étaient engagés à ça, créer votre groupe, inviter vos potes et coller les posts au fur et à mesure. Et ça marchait du tonnerre de Dieu, parce que c'est des vrais putains de community managers qui avaient fait le taf. Donc, c'est juste pour vous dire, ok, on peut être community manager, enfin, on peut écrire des trucs sur les réseaux, c'est faisable, mais l'objectif d'un community manager, c'est de générer un chiffre d'affaires sur les réseaux sociaux à terme. Donc, si ça, vous ne savez pas comment on fait, évitez peut-être l'étiquette. Ou alors, apprenez. Parce que les rédacteurs web, auto-entrepreneurs, mais entrepreneurs surtout, c'est des gens qui vont aussi faire des formations. Moi, j'ai eu une élève, là, dans ma dernière formation. Elle en était à 6 ou 7 formations, je crois. Il y avait copywriting, storytelling, il y avait SEO, il y avait WordPress, et il y avait rédaction web déjà, je crois. Et bref, elle cumulait le plus possible, tant qu'elle pouvait, tant qu'elle avait l'argent, tant qu'elle avait les soutiens, tant qu'elle pouvait faire financer. Elle essayait d'engranger le plus de connaissances possible pour pouvoir être le plus polyvalent possible et proposer le plus de choses à ses clients. Alors moi, je vais résumer les choses à un seul point. La promesse. Je suis OK avec toute personne qui tient sa promesse. 100% OK. Je m'en fous complètement du chemin que cette personne a fait, excepté pour me rassurer peut-être au début, mais pas dans l'exécution de la tâche, du moment qu'elle tient sa promesse. Quelqu'un qui me dit « Je vais m'occuper de ton site internet, je vais publier des articles et les personnes, tes futurs clients vont venir en plus grand nombre parce qu'on va répondre à leurs besoins sur Google, par exemple, et donc augmenter le trafic naturel, qui est un trafic qualifié, c'est-à-dire que vraiment, les gens qui viennent ont quelque chose à faire du produit qu'on vend. Ben, s'ils me donnent un prix, moi, je peux calculer le taux de rentabilité et je peux dire « Ok, c'est rentable ». Faut comprendre comment pensent les clients. Les clients se disent « Je donne 50 euros à cette personne, je gagne 200 euros de l'autre côté. Donc, je lui donne. » D'accord ? Là, on est passé pour la dernière formation qui va commencer dans 3 jours. On est passé par une plateforme qui s'appelle maformation.fr ou .com, je ne sais plus, qui est un énorme catalogue, ça appartient à Hello Work. Et leur idée, c'est de faire un tunnel de vente. Ils rassemblent toutes les formations qui font payer, alors je vous expliquerai après le mode de paiement, mais ils rassemblent toutes les formations au même endroit et ils créent un super moteur de recherche qui fait que les gens peuvent trouver les formations qui les intéressent. D'accord ? Donc, une fois qu'ils ont trouvé la formation qu'ils veulent, ils remplissent un formulaire qui vérifie les mails, les téléphones, tout ça, qui dit très explicitement « je veux plus d'informations » et le mail arrive chez le client. Quand le mail est envoyé, le client est facturé d'une somme d'argent. Ça va entre 10, 30, 40, 50 euros. Voilà, ça dépend. Donc c'est un prospect qualifié qui vient, qui dit « j'ai vu votre formation, elle m'intéresse, je voudrais plus d'informations dessus. » Donc moi, les trois quarts du chemin sont faits. D'accord, et tout ça est automatisé, hein, ça fait du fric qui rentre. Ils n'ont plus à se poser de questions, tout va bien. C'est un instrument qui tient ses promesses. Nous, on s'y est inscrit, on a eu quoi ? En deux semaines, trois semaines, on a eu 8 ou 9 prospects qui nous ont demandé des informations. Alors, parce qu'on n'est pas encore bien rodé, ben, ça a été beaucoup d'échecs, dans le sens où les personnes ne correspondaient pas tout à fait à notre profil et donc finalement n'étaient pas intéressées par notre formation. D'autres, il y en a un qui m'a dit quand même qu'il avait rempli le formulaire par hasard, il s'était trompé, c'était une erreur. Merci, tu m'as coûté 15 balles. Mais voilà, donc on a ce genre de cas aussi. On a beaucoup de cas de gens qui sont à plein temps en travail et qui cherchent à se reconvertir et qui cherchent une formation et ma formation ne répond pas à ça. Donc moi, ma formation, il faut être présent et il faut avoir du temps. Donc c'est encore une fois, on diminue le nombre de personnes qui peuvent y répondre. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que, pour en revenir à la polyvalence, il existe des plateformes de mise en contact que les rédacteurs web n'utilisent pas toujours, ou mal, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, parce qu'ils ne se projettent pas à la place du visiteur. Mais ils pourraient tout à fait travailler là-dessus. Ils pourraient même, et je l'ai proposé il y a quelques semaines, ça n'a pas beaucoup d'écho, mais bon, la communauté n'est pas franchement active non plus. J'ai proposé, et j'aimerais beaucoup trouver des profils pour tenter de lancer ça, parce que c'est énorme comme business, des rapporteurs d'affaires. Des apporteurs ou rapporteurs d'affaires, je ne sais plus. Et des gens qui se chargent de prospecter à votre place, en échange d'un pourcentage. C'est la même chose que les plateformes, sauf que là, c'est encore mieux, c'est un humain qui s'occupe de vous vendre. C'est un manager de freelance. Je crois que j'avais appelé ça comme ça. Et j'avais fait tout un article qui est disponible sur le cercle des rédacteurs où j'explique vraiment le profil qu'on cherche. Un commercial, mais un bon. Et quelqu'un qui vraiment manage votre carrière. Et espère gagner de l'argent. Le problème, c'est ça. C'est qu'à coup de contrat de 500 balles sur lequel il va gagner 150 balles, il a besoin de faire rentrer du chiffre, le loulou, hein. Donc, entre toutes les interactions avec les clients et tous les trucs, ça craint. Mais en même temps, c'est le métier que je faisais avant, indirectement. C'est-à-dire qu'il manque une partie qui est que je m'occupais de la carrière des gens. Mais j'avais créé une agence dans laquelle j'étais tout seul et j'étais rédacteur web. J'avais un problème de santé à l'époque qui faisait que je ne pouvais pas écrire autant que je le pouvais. Et donc, enfin, autant que je le voulais, autant qu'il était nécessaire. Et donc, j'ai dû sous-traiter parce que j'avais beaucoup de commandes. À l'époque, je travaillais avec Laurent Bourrelli, qui m'a explosé le derrière avec des commandes du genre 300 articles à faire en un mois. Voilà. Donc, il a fallu que je monte une espèce d'agence freelance dans laquelle j'ai auditionné des gens pour travailler avec eux exclusivement, etc., etc. Donc, j'avais une équipe qui est montée jusqu'à 20 personnes à un moment donné parce que des contrats de 300 textes, j'en avais plusieurs dans le mois qui tombaient, c'était des cocons sémantiques. Et on a énormément bossé comme ça, et je m'occupais de ramener les contrats, je m'occupais de payer les factures, je m'occupais de faire l'interface client, je m'occupais de tout ça, et ça gagnait bien, c'était bien, et tout le monde fonctionnait très bien, donc c'est un modèle, je pense, qui devrait s'exporter davantage. Si jamais on ne trouve pas de rapporteur d'affaires, peut-être que l'idée de se rassembler et d'avoir quelqu'un qui s'occupe de manager les projets pendant que les autres travaillent et que tout le monde prospecte ensemble, multiplierait les chances. Vous êtes des entrepreneurs, vous comprenez ? Vous êtes des entrepreneurs, tout est possible. Là, je vous ai déjà énuméré un nombre incalculable, non seulement de nouveaux business connexes aux nôtres, mais en plus, un nombre important de nouvelles configurations, de nouveaux types de clients, avec de nouvelles demandes. c'est énormément d'argent. La polyvalence, c'est la clé. Je veux dire, c'est pas pour rien que dans la formation rédacteur pro, on forme aussi à WordPress. Parce que le nombre de clients qui cherchent un contenu pour leur site, c'est pas ouf comme chiffre. Parce qu'il faut, encore une fois, vous prenez 100% de la population, vous avez tous ceux qui ont un site internet, déjà on enlève tous les autres, vous avez ceux qui ont un site internet et qui ne marchent pas autant qu'ils voudraient, ça, il y en a peut-être encore beaucoup qui restent, mais après, on rentre dans la personne sait quoi faire, elle sait comment investir, elle sait combien d'argent investir, elle sait quel est le ROI de ce qu'elle fait, vous correspondez à ses tarifs, c'est vous qu'elle veut, ça fait de moins en moins, d'accord ? Par contre, si on va sur le marché des gens qui veulent un site internet, tout court, qui veulent un site internet, pour quelque raison que ce soit, le marché est immense. Vraiment, le marché est immense. C'est pas pour rien que WordPress, c'est 46% des sites dans le monde. Des gens qui se lancent seuls, il y en a plein. Des gens qui sont prêts à payer, alors vous me direz, je sais pas, 100, 200, 500, 1000, 1500. Moi, j'ai vendu déjà à peu près tous les tarifs en fonction des profils et des moyens de chacun et du travail qu'il y avait à faire dessus. Mais aujourd'hui, on a ChatGPT qui permet d'accélérer. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il va tout maqueter. On pourrait, hein, mais encore une fois, ChatGPT, vous l'utilisez que si vous savez ce qu'il fait. Sinon, eh ben, il va faire de la merde et vous aussi. Donc attention à ce qui ne vous entraîne pas dans les bas-fonds avec des critiques hyper méchantes contre vous ou que vous soyez accusé d'être un fainéant qui utilise en permanence l'intelligence artificielle plutôt que d'écrire lui-même. C'est vous êtes le capitaine. ChatGPT est un accélérateur, mais certainement pas quelque chose qui dégrade la qualité. Donc une fois que ça c'est dit, vous faites les pages secondaires pas très intéressantes, éventuellement des cocons et des choses comme ça avec ChatGPT, hop, 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 histoire de voir un bon boost. Vous écrivez toutes les pages, vous soignez tous les petits détails, vous faites toutes les petites choses intéressantes sans ChatGPT ou en partenariat avec lui, en mix, c'est-à-dire écrit ce bloc-là, j'écris le suivant, ça, il faut le revoir, je vais m'occuper de ça, je relis, je mets en page, etc. C'est comme si vous travailliez avec quelqu'un qui vous accompagne et qui vous suit et qui dit « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Dis-moi », etc. Vous déployez votre site internet, pour l'instant, vous le faites à la main. Bientôt, sans aucun doute, on dira à WordPress AI, parce qu'il va finir par arriver. Je voudrais que mon site soit comme ci, comme ci, comme ça, et mets ça comme ci, comme ci, comme ça. Et puis, il fera. Et il n'y aura aucun problème. On va y arriver, hein. On va y arriver. Ils sont. C'est quoi ? C'est Facebook qui vient d'annoncer qu'il foutait de l'IA partout ? Sur WhatsApp, sur Messenger, dans les pages des entreprises, enfin partout. Je veux dire, ça va parler tout seul bientôt. Je sais pas s'ils sont sûrs de ce qu'ils font, parce que je trouve que vraiment, il commence à y avoir beaucoup trop d'IA partout. Mais, ah, je pourrais vous en parler longuement. J'ai entendu un sujet exceptionnel, c'était dans le dernier Tech Café, qui est donc un podcast à écouter, où ils ont parlé, alors c'était peut-être pas le dernier, peut-être celui d'avant, ils ont parlé de du monde de demain qui est un monde qui n'est plus un monde PC, c'est-à-dire d'ordinateur, mais qui devient un monde CP, c'est-à-dire de copilote, qui n'utilise plus d'interface. Où en fait, on aura juste des choses qui nous écoutent et qui font ce qu'on leur dit de faire, ou qui affichent sur n'importe quel écran ce qu'on veut voir. Mais en fait, à un moment donné, il n'y aura plus d'OS, il n'y aura plus de clavier, de souris, d'ordinateur, il n'y aura plus besoin de toutes ces choses-là, parce que c'est vers ça qu'on va avec l'intelligence artificielle. Voilà, je vous projette un peu là-dedans parce que ça va être encore un bordel, parce que Google, parce que machin, parce que notre métier, blablabla, bla bla, le rédacteur web entrepreneur saura quoi en faire de tout ça. En attendant, un rédacteur web aujourd'hui propose des sites internet sans problème. J'entends sans problème, il a quand même une bonne formation en WordPress. Dire, il sait mettre les sites en responsive, il sait faire les réglages d'optimisation, il sait faire des trucs, quoi. Il sait faire le recettage, et puis surtout, il sait penser les contenus pour que ça fonctionne, qu'il y ait un public, qu'il y ait un engagement. Vous ferez attention, il y a un chien. Ça devrait aller, mais juste faites attention. Voilà. Oli, bouge. Ah, mais j'y crois pas, elle reste au milieu de la route. Oli, côté. Désolé. Tu tu sépares tes fils, bouge. Ah, elle me regarde en disant qu'est-ce que j'ai mal fait. Bah t'as obligé quelqu'un à s'arrêter. Genre il y a un tout petit chemin, il est au milieu, elle regarde le vélo, elle dit oh non, qu'est-ce que je vais faire? Ah là là, je vais réfléchir. Bref, ceci étant, donc oui, Oli c'est mon chien. Je sais pas, un enfant, c'est au cas où des gens confondent. Hein. Donc, dans le raisonnement, en tout cas, le rédacteur web d'aujourd'hui, déjà, est un entrepreneur avant d'être un rédacteur web. Moi, j'aime bien dire entrepreneur en rédaction de contenu ou en production de contenu, histoire d'inclure l'intelligence artificielle, la sous-traitance et les différentes autres manières d'obtenir des contenus. D'accord ? On produit du contenu marketing, parce que tout est marketing, y compris les articles de blog informatifs, hein, que vous faites gentiment, ça sert quelque chose et ça sert le marketing. Donc voilà. Mais on doit avoir cette polyvalence, on doit avoir cette curiosité, on doit aussi énormément s'intéresser aux autres métiers, on doit les entendre, les écouter, comprendre comment ils se positionnent. Et c'est pour ça que toute ma formation porte sur cet énorme contexte de culture autour du rédacteur web, parce que c'est de là que naît la polyvalence. Vous savez ce qui se passe autour de vous. Vous savez ce qui se passe derrière vous. Vous savez pourquoi les SEO négocient toujours les prix. Vous le savez. Et c'est OK pour vous. Oh. Il y a des bruits bizarres, mais c'est les arbres ici. On dirait que les arbres pleurent. C'est parce qu'ils ondulent avec le vent et en automne, il manque un peu d'eau, donc ça fait... Voilà, vous inquiétez pas si vous entendez des sons bizarres. Enfin bref, c'est un peu le cœur de ce que je voulais dire, même si je me rends compte que mon sujet principal n'était pas celui-là quand j'ai commencé. Mais bon, c'est l'avantage, on démarre sur une idée et puis on déploie tant que ça a du sens et tant que c'est intéressant et tant qu'on peut nourrir un peu les raisonnements. Moi, je rêve d'un monde d'entrepreneurs. Je rêve d'avoir des discussions avec des rédacteurs web qui concernent des business. Je rêve qu'ils viennent avec des questions sur de la prospection, des stratégies. Je rêve qu'ils fassent des alliances entre eux, temporaires ou définitives. Je rêve qu'ils engagent et qu'ils développent des réseaux et qu'ils s'appuient dessus, qu'ils deviennent potes avec des personnes clés autour d'eux pour pouvoir consolider leur carnet d'adresses. Je rêve qu'ils se comportent comme des entrepreneurs. Et c'est encore quasiment jamais le cas. Ou alors, c'est des gens qui partent très vite. C'est des gens qui deviennent un autre métier, copywriter, storyteller, SEO, créateur de site web. Bref, c'est des gens qui restent pas dans la rédaction web. Or, je crois qu'on est au cœur de tout ici. Je crois qu'on est le point central de tout. Rien ne peut être fait sans rédaction web. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur marché, ou en tout cas le plus audible par rapport à la plus grande masse. Si vous devez vendre des tournevis, pour vous donner un exemple illustratif de ce que j'essaye de dire, si vous voulez vendre des tournevis, vous avez deux catégories de tournevis. La première, c'est des tournevis cruciformes classiques. La seconde, c'est des tournevis pentatones, je crois, qui sont en forme d'étoile et qui permettent d'ouvrir spécifiquement les iPhones. D'après vous, quel est le tournevis que vous vendrez le plus ? C'est exactement ça. Soit vous vous adressez à des professionnels qui ont un besoin hyper spécifique, genre le tournevis pentatone, soit vous vous adressez à tous ceux qui ont un problème de vis avec le tournevis classique. Viser le marché le plus porteur. C'est aussi là où il y aura le plus de concurrence. Bien sûr, c'est là où il y a le plus d'argent. Mais c'est comme ça que pense un entrepreneur. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir partagé cette réflexion. À la prochaine. Et si jamais vous êtes arrivé à la fin de ce podcast et que vous voulez vous inscrire à la formation, maniez-vous, il reste encore des places et on fait des prix. Bye bye.